Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire quelques lectures avant de partager ce sujet donc qui nous préoccupe, un sujet extrêmement sérieux. Alors nous allons relire la lecture que nous avons faite dimanche dans Hébreux chapitre 13, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, pour que nous comprenions combien le mariage est quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui on le dévalorise, on s'en moque même, on le tourne en ridicule. Même parfois, certains chrétiens, ne connaissant pas la parole de Dieu, ne prennent pas au sérieux cette institution, la première institution que le Seigneur a voulu, le mariage. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. On a l'impression, en lisant ce verset, que Dieu veut que même les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ soient conscients que le mariage est quelque chose de sérieux. Il ne dit pas que le mariage soit honoré des chrétiens, que le mariage soit honoré de tous. C'est comme quand il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ça s'adresse à tous les hommes. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui n'aime pas Dieu, et pourtant ce commandement s'adresse à vous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dieu est votre Dieu. Même s'il n'est pas encore votre Père, ce commandement s'adresse à vous. Je fais le parallèle entre ces deux versets pour vous expliquer que le mariage est quelque chose que Dieu a institué, dont nous devrions l'honorer. Nous allons voir ce soir un petit peu les bases du mariage pour comprendre un petit peu cette institution. Pour vous donner un petit peu la différence avec le comportement des hommes à la fin des temps, dans 1 Timothée, au chapitre 4, verset 1 à 3, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3, il nous est parlé un petit peu de l'état d'esprit qu'il y aura dans les derniers temps. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, ce sont certainement les temps que nous sommes en train de vivre, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous avez vu un des signes de la fin des temps, une des doctrines de démons, ça prouve que ça vient de l'enfer lui-même. Il y a des fois des divergences d'opinion dans le royaume de Dieu par rapport à la doctrine. Ça, c'est pas tellement grave. Quoi qu'il vaut mieux, il vaudrait mieux quand même ne rien retrancher, ne rien ajouter. Mais là, il nous est dit que c'est des doctrines de démons. Ça veut dire que le fait de déshonorer le mariage est beaucoup plus grave que ce que nous pensons. Nous allons lire notre texte pour vous montrer combien les choses dégénèrent. Je vous apprends rien dans Romains au chapitre 2. On va lire à partir du chapitre 1er, verset 21. Ce texte nous parle de ceux qui ne veulent pas de Dieu, de ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu. C'est un commandement dans la Bible de chercher à connaître Dieu. On le peut par sa parole. Romains chapitre 1er, vous allez voir que ces choses ont été écrites il y a 2000 ans. C'est pour vous dire combien les choses sont graves. Romains chapitre 1er, verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénus au mal. Ingénus au mal, tenez-vous bien. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. La suite est terrible par rapport à cette catégorie d'hommes qui ne se soucient pas de connaître Dieu, mais qui vont à fond, même dans le milieu religieux, pour approuver ces choses, des faux docteurs qui sortent droit par l'inspiration de l'enfer à prescrire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. J'ai pas besoin, sincèrement, je suis sûr que il y a peut-être 30 ans en arrière, ça aurait été bien de faire une espèce de tableau sur les statistiques, sur le mariage et le divorce. J'ai entendu l'autre jour qu'en Russie, dans la ville de Moscou, si je ne me trompe pas, sur 10 mariages, il y a 9 divorces. Voilà. 9 à cause de l'alcool, de la vodka, enfin, il parlait à cause de l'alcool en particulier. Et pourtant, Dieu s'intéresse à notre bonheur. Ce que Dieu a créé, ce que Dieu a institué est quelque chose de bon. J'ai dit dimanche que la conversion est la chose la plus importante. Le plus important, c'est de se préparer à rencontrer Dieu. Mais le mariage est quelque chose de sérieux, quelque chose de merveilleux. Parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, parmi tous ceux qui écouteront cet enseignement au travers du net, au travers des enregistrements, il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui envisagent de se marier, il y a ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a ceux qui ont été mariés, qui ont vécu un drame, ceux qui désirent à nouveau refonder un foyer, et je comprends bien que ce sujet est un sujet profondément délicat, qu'on ne peut pas aborder n'importe comment, et pourtant il y a dans la Bible tout un enseignement que nous devons extraire de l'ensemble pour l'apporter. Il y a des choses assez précises, même dans le domaine de la vie intime, on ne peut pas aller au-delà, bien entendu, mais quand même on peut l'expliquer. Et je vais essayer de le faire au travers de ces 5 ou 6 études que nous allons avoir ensemble. On peut réussir sa vie et même s'épanouir en dehors du mariage. C'est une question que l'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut être heureux tout en étant célibataire? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Oui, c'est vrai. Le vrai bonheur réside, dans la Bible on le voit, dans la relation que l'homme a avec Dieu. Et comme je l'ai dit dimanche, on ne pourra jamais trouver, même dans le meilleur des mariages, le bonheur et la paix que seul que Dieu peut donner par la foi. Ça, il faut bien que les gens mariés en sont tous conscients. Le bonheur et la paix profonde se découvrent par la communion avec Dieu. Et ce n'est pas le mariage qui pourra apporter certaines choses, certaines paix, certains bonheurs que seul Dieu peut donner. C'est vrai, et j'en suis bien conscient par rapport aux personnes que je suis ou que je rencontre, que le célibat est parfois une véritable source de souffrance. Des gens souffrent du célibat. Il y a des gens qui en sont arrivés à tomber dans la dépression, et pourtant, ce n'est pas une tare d'être célibataire. Quelqu'un de célibataire n'est pas quelqu'un d'anormal. C'est vrai que la vie peut nous imposer parfois cette circonstance-là. Moi, j'ai discuté avec une dame qui était célibataire parce qu'elle s'était occupée presque toute sa vie de ses parents qui étaient malades. Elle s'était tellement occupée de ses parents qu'elle est arrivée tard dans l'âge, célibataire, et qu'elle est restée ainsi célibataire. Les circonstances de la vie, et j'en revenais pas, mais il y a des célibats qui sont les conséquences d'une déception amoureuse. Il y a des jeunes qui ont été déçus. On va voir justement si j'ai le temps de parler du flirt. Des jeunes qui ont été déçus par une relation qui avait démarré, ils ne s'en sont pas remis. C'est une sœur de l'église, vous la connaissez, je peux la citer. Vous pourrez lui demander à un cousin ou un oncle qui a eu une déception amoureuse. Il s'est fait prêtre dans le désespoir, et quand il a pris la retraite de sa prêtrise, le lendemain, il s'est suicidé. Et il avait une lettre dans son missel comme quoi il s'était jamais remis de cette déception amoureuse. Et nous pourrions donner des multitudes de cas où des gens se sont vus vivre un célibat à cause de drames. Ça, c'est un drame. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et nous pourrions donner des témoignages incroyables du célibat qui a été imposé par un veuvage, parfois vite. Il y a quelqu'un, des fois, qui se marie, tombe dessus dans le veuvage, etc. C'est peut-être pas facile de vivre le célibat, mais je suis persuadé, et ça je le dis pour tous ceux qui sont ce soir célibataires, parce que j'aurai à traiter et à aborder certainement ce sujet plusieurs fois, on peut s'épanouir en étant célibataire. Il ne faudrait pas laisser le diable nous laisser croire qu'on ne peut pas s'épanouir quand on n'est pas encore marié. Sur deux conditions, bien entendu. La première, c'est que malgré le célibat, nous ayons une réelle communion avec le Seigneur. Parce qu'une souffrance, quelle qu'elle soit, une déception, quelle qu'elle soit, ne nous autorise pas à bâcler notre communion avec le Seigneur. Parfois, j'ai entendu dire, oui, vous comprenez, je ne suis pas marié, alors moi, je lis pas ma Bible. On ne boude pas le Seigneur parce que l'on n'a pas encore obtenu ce que nous aurions aimé avoir. La première condition pour réussir son célibat, c'est avoir une réelle communion avec le Seigneur. Et je pense que la deuxième, c'est que nous nous investissions pour le service du Seigneur. Car je crois, l'apôtre Paul en parle par rapport au célibat. L'apôtre Paul même présente les avantages du célibat dans la Bible. Il en parle, on aura l'occasion d'y aller peut-être tout à l'heure. Je crois qu'il faut, être sérieux. Si vous êtes célibataire, entretenez vraiment votre communion avec Dieu et investissez-vous dans le service du Seigneur, comme l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Alors, quelques considérations d'abord sur le mariage. Ce soir, ça ne sera peut-être pas très, très, très intéressant, mais il faut quand même, par rapport à tout l'ensemble de l'étude, définir certains aspects du mariage. Qu'est-ce que le mariage ? Alors, j'ai cherché deux définitions. La première, ce n'est pas la meilleure, mais en fait, ce n'est qu'une définition. Union légale d'un homme et d'une femme. Bon, vous allez me dire, tu n'apprends rien. Oui, mais en fait, c'est quand même une définition du mariage. La deuxième, un peu mieux. Union, elle est jolie quand même. Union volontaire de deux cœurs et de deux corps en une seule chair dans la perspective de la vie. C'est plus joli quand même, non ? Je vous la relis, elle est bien. Union volontaire de deux cœurs et de deux corps en une seule chair dans la perspective de la vie. C'est quand même une belle définition du mariage. Alors, toutes les cultures, tous les peuples ont une institution qui s'appelle le mariage. Alors, la Bible reconnaît que le mariage est un lien légal. Alors, on va voir ça un peu. Par exemple, dans 1 Corinthiens, ne le cherchez pas, chapitre 7, verset 39, il est dit, une femme est liée par son mari. Donc, c'est un lien. Dans Romains, au chapitre 7, verset 1er, il est dit, liée par la loi. Mais quelle loi ? Liée par la loi. Est-ce que c'est la loi de Moïse ou est-ce que c'est une autre loi ? Est-ce que nous sommes sous la loi de Moïse ? Non. Donc, nous sommes quand même liés par la loi, mais la législation, il y a une véritable législation qui parle du mariage. Notre pays a des lois bien précises sur le mariage. Et il faut connaître la législation en vigueur dans le pays où nous sommes. Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la législation. Dernièrement, il y a une femme qui est venue me trouver dans un désespoir total, elle n'est pas de cette église. Elle est venue me trouver, elle connaît par le net. Et elle est venue me voir, elle me dit, voilà, je me suis mariée, mais je voudrais savoir si je suis vraiment mariée. Alors je dis, mais comment vous vous êtes mariée ? Eh bien, on est passé par l'église. Et vous n'êtes pas passé par la mairie ? Non, on est passé que par l'église. Et j'ai dit, mais quel est le pasteur qui a osé faire un truc pareil ? Parce que dans le code pénal, il est stipulé qu'il est interdit qu'un homme religieux, un prêtre, un curé, un pasteur, marie, unie sous le regard de Dieu, fasse une cérémonie religieuse sans le papier de la mairie. C'est passible de prison. C'est interdit par la loi française. Et ce pasteur avait fait un mariage. C'est pour vous dire, c'est pas vieux, ça date d'un mois. Vous voyez, ça date d'un mois. Il y a une loi et dans la parole de Dieu, nous le comprenons, il faut se soumettre à la législation qui est en vigueur dans le pays où nous sommes. Alors, ce que le mariage n'est pas. Alors, la relation sexuelle ne fait pas le mariage. Alors, que le mariage aboutisse à la relation sexuelle, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce qu'un homme et une femme ont des relations sexuelles qu'ils sont mariés. Et il y a une catégorie de personnes en France, je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion, qui stipule que lorsque un homme s'unit à une femme, ils sont mariés devant Dieu. Alors, on va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je voudrais vous expliquer quand même quelque chose, parce qu'on a vite fait de dire n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Vous allez voir que ce que je dis est biblique à 100%. Je ne voudrais surtout pas me tromper. Si je venais à me tromper, reprenez-moi, je me corrigerai à la prochaine réunion. Je crois que ça peut arriver de mal dire quelque chose. Et je compte sur vous, si je venais à dire quelque chose qui n'était pas biblique, que vous me repreniez, je me reprendrai. Croyez-moi, je n'ai pas la science infuse, je le sais. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Vous avez vu le terme que Dieu utilise? Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Celui qui s'unit à la prostituée, pour reprendre le texte, il devient avec elle une seule chair. D'accord. Mais est-ce qu'il est marié pour autant? Et non, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit qu'il est dans le péché. Vous comprenez? Il s'unit à une femme, mais comme il n'est pas marié, on voit bien que la relation sexuelle ne fait pas le mariage, il est dans le péché. Il est même dit, fuyez la débauche. Je ne sais pas si je l'ai lu avec vous tout à l'heure, non, je ne l'ai pas lu. Quand il est dit que le mariage soit honoré de tous, il est ajouté, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est vrai que le mariage aboutit à ce que le couple fasse une seule chair. Mais le fait qu'il y ait relation sexuelle ne fait pas forcément le mariage. Ça peut être une manifestation du péché, comme dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. C'est trop facile de dire on est marié, on a couché ensemble, on est marié devant Dieu. Ce n'est pas vrai. Croyez-moi, frères et sœurs, c'est un sujet trop sérieux pour que je me permette de dire des choses par conviction personnelle. C'est ce que la Bible dit. C'est une manifestation du péché, c'est de l'adultère quand il s'agit de personnes qui sont mariées, et il nous est parlé de fornication ou d'impudicité quand il s'agit de gens qui sont célibataires. Et ce péché, on le voit dans le texte que l'on vient de lire, est suffisamment grave pour que la Bible traite ce péché comme étant entièrement à part. Bien sûr qu'il y a... Il n'y a pas de petit et de grand péché. D'accord. Mais il est quand même fait en sorte que ce péché est traité à part. Ce qui prouve que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ce que l'on pense. Celui qui pêche contre son corps et le corps d'un autre pêche contre le temple du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans bien des églises, on prend certains versets de la Bible comme ce verset des Corinthiens que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il s'est converti pour justifier le mariage, qu'on appelle ça, marital, c'est-à-dire sans passer par la mairie. Donc, le mariage n'est pas la relation sexuelle et la relation sexuelle ne fait pas forcément le mariage. Le mariage n'est pas non plus un échange de promesses. Des personnes se sont fait des promesses. On dit, voilà, on est mariés maintenant sous le regard de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui ont, on est mariés. Comment vous vous êtes mariés? On s'est promis fidélité. Mais où? Eh bien, dans la salle à manger. Et oui, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Ouais. Alors, certains l'ont fait, ça. Mais combien j'en ai vu ici qui m'ont dit, mais en privé, on s'est promis fidélité. On a prié, monsieur Gau. On a prié et on s'est marié devant Dieu. C'est vrai que dans le mariage, il y a une alliance, un engagement et un échange de promesses. Mais pour qu'il y ait un mariage, il faut que ce soit dans le cadre social et par l'autorité qui est compétente pour prononcer le mariage. Béni soit Dieu pour les promesses, c'est merveilleux. Pour les promesses en privé, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas le mariage. Même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la bénédiction d'un pasteur, s'il n'y a que la bénédiction du pasteur sans passer par les autorités civiles, il y a transgression des autorités. Je sais que beaucoup de personnes qui entendront ça ne vont pas être d'accord. Mais moi, je vous dis ce que la Bible enseigne. L'Écriture dit, c'est clair, Romains 13, « Soyez soumis aux autorités. » C'est clair, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ne peuvent prononcer et valider le mariage que les autorités compétentes. Voilà ce que la législation enseigne. C'est vrai que dans certains pays, comme en Amérique ou en Angleterre, il n'y a pas la séparation. On le voit quand on nous parle des évangélistes aux États-Unis. Vous avez vu l'amalgame entre la politique et la religion aux États-Unis. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre. Vous avez vu comment on parle de la politique, avec la guerre, de la religion avec la guerre en Irak. C'est un truc presque qu'on ne peut même pas comprendre. Tellement notre culture à nous, européenne, est différente de celle des États-Unis. Mais pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, dont les pasteurs, les ecclésiastiques, sont autorisés à prononcer le mariage. Mais le mariage n'est pas le passage à l'Église. Des fois, je pose la question aux gens qui viennent, des nouveaux qui viennent, est-ce que vous êtes mariés devant Dieu ? Ah non, 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 non. On n'est pas passé par l'Église. Mais moi, je vous dis une chose, que le mariage devant Dieu, il est devant l'autorité compétente du pays. Hein? Je vous assure que c'est ça, être marié devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé à l'Église qu'on n'est pas marié devant Dieu. Quand on est passé devant la mairie, devant le maire, et qu'on a dit oui, on a dit oui, en vérité, on s'est engagé devant Dieu. Quant à la mairie, on dit oui. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit dernièrement, mais pourquoi à l'Église, vous ne faites pas prononcer les vœux de mariage ? Il y a des pasteurs qui le font. Moi, ça ne me gêne pas de le faire refaire. Si quelqu'un se marie et me dit, voilà, monsieur Gau, moi, quand même à l'Église, j'aimerais prononcer le oui de mon engagement. Bon, on va le faire. Mais ça aurait déjà été fait. Et il me semble que si vous l'avez fait à la mairie, si vous avez dit oui à la mairie, c'était un oui. Ce n'était pas un entraînement, ce n'est pas une répétition. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'était un oui, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Quand quelqu'un dit oui à la mairie, il a dit oui devant Dieu. Dieu a été témoin de l'engagement et là, devant le maire, devant Dieu, ils ont été liés et mariés. Le passage à l'Église, ce n'est pas une obligation par rapport à la doctrine biblique. C'est un désir, c'est un rassemblement fraternel. On veut se retrouver avec la famille, avec les frères et les sœurs, et on veut demander sur l'union qui a eu lieu à la mairie, sur l'union qui a eu, on veut demander la grâce et la bénédiction du Seigneur. On ne peut pas refuser de demander à deux jeunes qui s'unissent, un couple qui s'unit, la bénédiction du Seigneur. Mais ce n'est pas nécessaire pour être marié devant Dieu. Mais je trouve que c'est beau de demander la bénédiction du Seigneur sur le couple qui se marie. La Bible appelle mariage ce qui, dans la société où l'on vit, eh bien, est appelé le mariage. En Afrique, moi je discutais avec des Africains, ils m'ont expliqué comment le mariage était soumis aux lois africaines. Ça n'a rien à voir, hein, certains Africains pourraient venir, parce qu'il y a des Antillais, des Gabonais, des Congolais, et bon, si vous dites chacun comment le mariage, vous allez dire, attends, mais c'est comme ça que ça se passe ? Eh oui, ça n'a rien à voir avec les lois françaises. Mais le mariage est soumis aux lois du pays en vigueur. C'est important, mes frères et sœurs. Un chrétien, un véritable chrétien, il se doit d'être dans la légalité. Vous êtes d'accord avec moi ? Un chrétien, il a le souci de respecter la loi du pays. Oui ou non ? Même sur la route, hein, en voiture. Mais ce n'est pas parce que tout est légal. Il y a des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas morales. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, l'IVG, est-ce que c'est légalisé en France? Oui, c'est légalisé. Est-ce qu'on a droit à un IVG? Est-ce qu'on peut se faire avorter en France? Est-ce que c'est légal? C'est légal, oui. Vous ne serez pas poursuivi en justice si vous provoquez un avortement. C'est légal. Vous pouvez le faire. Est-ce que la loi française autorise les interruptions volontaires de grossesse? Oui, la loi l'autorise. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est légal aux yeux de la société que c'est moral aux yeux de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que certains se targuent de dire « Ah mais la loi l'autorise, donc je peux le faire ». Le concubinage et le pax, est-ce qu'ils ont une reconnaissance aux yeux de la société? Oui. Est-ce que c'est moral devant Dieu? Et non. Et il faut bien faire attention à la différence entre ce que la loi nous autorise et ce que la moralité spirituelle nous accorde. C'est important. D'ailleurs, même la société fait la différence entre le mariage et le concubinage. C'est bien la preuve qu'il y a une différence. Et quand je vois, moi, des chrétiens qui veulent même pas faire la différence entre le concubinage et le mariage parce que le concubinage est légalisé en France, c'est bien la preuve qu'on ne veut pas, qu'on cherche des prétextes. D'ailleurs, quand Jésus dit à la Samaritaine, quand il lui appelle ton mari, rappelez, qu'est-ce qu'elle lui répond? J'ai pas de mari. Lui, il lui dit oui, mais tu es avec quelqu'un. Mais t'es pas marié. Donc, il faut bien comprendre la différence entre le concubinage, vivre maritalement, et le mariage selon Dieu. Vous savez, si Dieu nous recommande d'être dans le légal et dans le moral, c'est qu'il y a de bonnes raisons. On va relire ce verset pour ceux qui n'étaient pas là, dans Ésaïe 48. Je pense que c'est bien que nous le relisions. Parce que premièrement, je l'ai à cœur, parce que certains peut-être n'étaient pas là dimanche, soit le matin, soit l'après-midi. Et je voudrais le relire parce que pour moi, il est très, très sérieux. Ésaïe 48, verset 17. Vous rappelez dans la Genèse, Dieu dit, plus loin, il est dit, Dieu dit, et puis il y a le serpent qui rentre, il est écrit, Dieu a-t-il réellement dit? Et vous savez qu'ils ont obéi à Dieu a-t-il réellement dit? Et quand vous lisez comme moi, le verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, c'est comme pour moi s'il était écrit, Dieu dit. » Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est pareil? Qu'il soit écrit « Dieu dit » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, il faut faire très attention à ne pas remettre en question ce que Dieu dit. On pourrait dire « Dieu dit, le Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Nous voyons dans ce texte que Dieu nous instruit, comme nous le partageons ce soir, pour notre bien. Dieu veut notre bien. Nous sommes dans une société qui rejette le légal, qui rejette le moral, mais nous, nous sommes soucieux de connaître vraiment la pensée du Seigneur. Ce texte nous prouve que Dieu nous instruit pour notre bien. Je le répète, parce que pour moi c'est quelque chose de sérieux quand je vois par les prophéties bibliques qu'on a lues, quand je vois le comportement de certains chrétiens aujourd'hui qui remettent en question les principes bibliques, moi je vous dis que derrière chaque conseil de Dieu, il y a la sagesse et l'intelligence du Seigneur. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Derrière chaque conseil, je t'instruis pour ton bien. Dieu veut notre bonheur. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Il faut le comprendre, mes frères et sœurs. C'est trop sérieux. J'ai entendu dernièrement une femme qui disait, une femme chrétienne, qui disait, ah mais moi ma fille, je vais la pousser à qu'elle prenne la pilule. Hein. Je préfère qu'elle fasse des expériences avant, comme ça au moins. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ça, si c'est s'instruire dans les voies de Dieu. Ça, c'est faire exactement comme les païens. C'est vrai ou non? Après, on s'étonne. On n'a pas fini l'étude, je vous le dis. Notre réflexion, à nous chrétiens, ne doit pas s'arrêter à la légalité et à la moralité. C'est clair. On va plus loin. On honore le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Parce qu'au nom de la légalité, on peut faire n'importe quoi. Au nom de la moralité, on peut arriver à surfer, croyez-moi, et arriver à ses fins. Comme ça sera le cas, et comme c'est déjà le cas, puisque ces doctrines de démons font qu'aujourd'hui, on prescrit aux gens de ne pas se marier. Il y a des églises où on distribue la Sainte Cène aux gens qui ne sont pas mariés, qui vivent dans le concubinage. Mais c'est déjà fait. Je vous invente rien. L'homme n'a pas été fait pour la morale. C'est comme le sabbat. C'est la morale qui a été faite pour l'homme. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La morale est nécessaire. Nous avons besoin de morale. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a presque plus de morale. Je peux vous dire que même dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui appellent le mal bien. Et qui appellent le bien mal. On y reviendra certainement. Quand on vit selon la morale chrétienne, comme on va le voir, comme on va le partager au fur et à mesure de ces réunions, nous nous rendons compte que nous vivons dans la sécurité. Nous avons besoin d'être sécurisés. Un chrétien, même si c'est un grand garçon, même si nous sommes des hommes, même si vous êtes des femmes mûres, nous avons besoin de sécurité. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a besoin tout le temps de se sentir sécurisé. Et je plains vraiment les personnes qui vivent à côté de quelqu'un qui n'a pas le courage de s'engager avec ce quelqu'un pour la vie. Moi, je le plains. Ces gens qui n'arrivent pas à s'engager. Moi, je crois que quand on chantait, tiens, ça m'a donné une idée, ça. Aimez-vous comme je vous ai aimé. La qualité de l'amour que Dieu réclame. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Parce qu'on entend des fois, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ouais. Et comment ça se fait qu'il y a tant de choses à côté qui ne vont pas? Mes frères et sœurs, quand on aime, on s'engage. On aime, on a envie de s'engager. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Seigneur, il ne s'est pas engagé par amour pour nous? Vous ne trouvez pas que Jésus s'est vraiment engagé? Et comment qu'il s'est engagé par amour pour nous? Ça n'a pas été de l'amour. Je vous aime, du haut des cieux. Non, je vous aime. Sur la croix, je vous ai prouvé mon amour. L'amour, c'est un engagement. Et la personne, je voudrais pas, peut-être qu'il y a des personnes dans ce cas ce soir, et ne pensez pas que dans mon esprit, il y a un mépris quelconque. Je voudrais être rempli de miséricorde et aider les personnes qui sont peut-être dans cette immoralité ou dans cette illégalité devant Dieu à trouver la grâce du Seigneur. Mais quand même, je crois que quand on se convertit, quand on donne son cœur au Seigneur, on a le courage de s'engager avec la personne que l'on aime. Moi, je le vois comme ça. Vous savez, dans la Bible, le mariage est l'image de la relation que le Christ a avec l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Et si Dieu nous demande d'honorer le mariage, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Quand Dieu demande quelque chose, c'est toujours quelque chose de bon. Même si on ne le comprend pas. Je me souviens de cette jeune fille l'an dernier qui était ici étudiante. Elle a décroché, ça fait 2 ans. Et elle a fréquenté un inconverti. Elle me dit, mais Monsieur Gou, moi je crois qu'il va se convertir. Et puis même je crois, Monsieur Gou, que Dieu il peut changer d'avis. Ah bon? Comment il peut changer d'avis? Eh bien, qu'il est écrit, il ne faut pas se mettre avec un infidèle. Mais moi, je crois que Dieu, il peut changer d'avis. Oula, j'ai dit. Oula. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, je pense que ça va aller mal. Et cette fille, elle le croyait. Mais quand j'ai discuté un moment avec elle, je me suis bien sûr rendu compte qu'elle n'était pas du tout convertie. Elle avait pris le baptême. Elle aimait le Seigneur à sa façon. Mais moi, je crois que quand Jésus devient notre Seigneur, on ne pense pas un instant qu'il va changer d'avis. C'est comme si quelqu'un disait, ben, Dieu a dit qu'il ne fallait pas mentir, mais peut-être qu'il peut tolérer le mensonge de temps en temps. Est-ce que Dieu peut tolérer le mensonge de temps en temps? C'est une stupidité pas possible. Mes frères et sœurs, Dieu ne changera pas d'avis. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Toutes les paroles de l'Écriture, il n'y a pas une parole où Dieu doit se dire, oh ça, j'aurais pas dû le dire. Vous imaginez Dieu en train de dire, oh là là là, où j'ai mis ça dans Ésaïe, oh, j'aurais jamais dû le dire. Ça fait stupide, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez que Dieu l'a dit une parole qu'il a regrettée? Nous, on a dit des paroles qu'on a regrettées. Nous, on a dit des choses qu'on aurait jamais dû dire. Oh, j'aurais jamais dû le dire, je te demande pardon. Combien de fois on a souffert, nous, de choses qu'on n'aurait jamais dû dire? Mais Dieu, il n'a jamais dit une parole qu'il peut regretter. Tout ce qu'il dit est plein de sagesse et d'intelligence. Et quand il nous demande d'honorer le mariage, c'est que c'est bon. Et nous qui voulons rester fidèles jusqu'à la fin des temps, tenez-vous bien, mais tenez-vous bien pour dit, si nous n'aurons pas le mariage, le Satan, il aura une brèche ouverte pour essayer de nous faire chuter, croyez-moi. Et il ne se gênera pas pour essayer de faire foirer, excusez-moi l'expression, notre mariage, pour essayer de détruire notre foi. Parce qu'il est dit, justement dans ce cadre-là, beaucoup abandonneront la foi. Le mariage, on le prend au sérieux. Vous avez connu peut-être un malheur, c'est possible. En tous les cas, nous, on est là pour vous aider. Moi, je vous dis, en ce moment, je suis en train de me couper de cinq couples, qui vivent dans le péché, qui sont en train de mettre leur vie en règle. Moi, je me réjouis parce que ce sont des gens qui veulent connaître la grâce de Dieu. Béni soit le Seigneur. Personne ne dit amen. Moi, je dis que c'est formidable. Oui ou non? Mais je crois que le mariage, il faut le prendre au sérieux. Et même si vous avez connu un échec, eh bien, le Seigneur, il est capable de vous bénir. Moi, je le crois véritablement. Vous savez, il y en a des gens qui ont vécu des malheurs au niveau du mariage. Vous ne croyez pas qu'il y en a? Mais Dieu est le réparateur des brèches. Dieu pardonne. Un jour, j'ai entendu un truc qui ne m'a pas plu du tout. C'est vrai qu'il est dit que Dieu est le divorce. Mais il n'est jamais dit que Dieu est les divorcés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a vite fait de basculer, mes frères et sœurs. Dieu, il aime les divorcés. Vous le croyez, frères et sœurs? Et il veut les bénir. Franchement, mes frères et sœurs, que jamais nous ne tombions dans ce panneau. Oui, il y a des choses que Dieu ne veut pas, que Dieu n'aime pas. Mais il est capable de bénir des personnes qui sont passées par le divorce. Vous le croyez, frères et sœurs? De les bénir profondément. Moi, je me réjouis, il y a plusieurs couples dans l'église qui sont des foyers recomposés. Mais moi, j'avoue que je bénis le Seigneur qui soit là. Je bénis le Seigneur qui soit là. Si vous voulez vous marier, les jeunes, parce qu'il y en a des jeunes dans l'église, j'en vois. Écoutez la parole de Dieu. Ne négociez jamais la parole de Dieu. Comme je l'ai dit dimanche, qu'est-ce que vous cherchez dans le mariage? Vous vous rappelez la question que j'ai posée? Vous en rappelez? Alors, est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Qu'est-ce qu'on cherche dans le mariage? Allez les jeunes, aidez-moi. Alors, vous êtes là, vous êtes habitués à la fac à répondre à vos profs. Oui ou non? Vous n'êtes pas habitués? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a un jeune dimanche après-midi qui m'a dit qu'il cherchait une femme de ménage. Hein? Il est là ce jeune? Il est là, c'est pour détendre l'atmosphère. Il s'appelle Lucas. Mais je ne pense pas que je l'ai éduqué comme ça. Mais peut-être il plaisantait. Il est là, Lucas? Où est-ce qu'il est? Je t'aime, mon fils. Je pense qu'il plaisantait quand même. Quoique. Mais je ne l'ai pas marqué sur les réponses quand même. Voilà. Pardon, Lucas. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout ça, c'est une petite boutade. J'espère que vous acceptez, mais mon petit humour, ce n'est pas méchant. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche dans le mariage? Je crois qu'on cherche vraiment un véritable amour. On a besoin d'aimer. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a besoin d'être aimé. C'est vrai qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a cet amour spirituel du Seigneur. Mais il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour paternel, l'amour qu'on peut avoir pour son père. Il y a l'amour maternel, l'amour qu'on peut avoir pour sa mère. Il y a l'amour filial, l'amour qu'on a pour ses enfants. Il y a l'amour conjugal, celui qu'on doit avoir pour sa femme. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger toutes les formes d'amour. Elles existent, on en reparlera peut-être dans une autre étude, mais il faut quand même en prendre conscience. Et ne soyez pas jaloux de l'amour que votre mari a pour votre belle-mère. Ça fait des histoires pas possibles, ça c'est dommage, parce que l'amour pour sa mère, l'amour pour ses fils, ses enfants, c'est une forme d'amour différente. Et je crois que quand on est intelligent, on accepte au contraire que nous nous aimions. Il y a plusieurs formes d'amour. Nous cherchons la paix. C'est important d'avoir un foyer où on vive dans la paix. Mes frères et sœurs, Dieu, il a... Moi, quand je lis le verset, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, je vous l'ai souvent dit et je ne me cesserai de le dire, la paix, quand je vois le prix qui a été payé pour qu'on ait la paix, heureux les couples qui vivent en paix. On a été créés pour vivre en paix. On cherche une forme de joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans le couple. Il doit y avoir de la joie dans tous les domaines, même dans les relations physiques. Quand il est écrit « ne vous privez pas l'un de l'autre », ça sous-entend qu'il doit y avoir une certaine joie à s'accorder l'un vis-à-vis de l'autre. On cherche la confiance, la compréhension, être écouté. C'est important dans le couple. Moi, j'ai souvent souffert dans mes entretiens de voir des femmes qui me disent « mais moi, mon mari, je ne peux pas lui parler. Mais moi, ma femme, je ne peux pas lui parler. Je ne lui dis rien. » Alors, je ne sais pas si c'est quand même ça. Moi, il me semble que dans le couple, on devrait quand même trouver un ami avec qui on pourra parler. Je ne sais pas si j'exagère, mais il me semble quand même que dans le couple, on doit trouver une personne à qui on va pouvoir ouvrir son cœur. Oui ou non? C'est important de pouvoir... Peut-être qu'on ne pourra pas tout dire. Il y a des choses qu'il ne pourra pas vous dire. Je ne parle pas de science infuse. Je parle de pouvoir ouvrir son cœur. À des moments, on a besoin d'ouvrir son cœur. Ça peut arriver qu'on ait besoin de le faire auprès d'un ami. Mais à des moments, on doit le faire auprès de sa compagne ou de son conjoint. Oui ou non? Hein? Des fois, on a besoin d'un ami, c'est bien d'avoir des amis. Et il y a des fois, dans le cœur gros, ça fait du bien de partager certaines choses avec un frère avec qui va nous comprendre. Mais il me semble que dans un couple, on doit trouver le dialogue. C'est bien. Et dans un couple, comme je l'ai dit l'autre jour, on doit également trouver une sexualité épanouie. On va le voir. Je voudrais le présenter de la manière la plus saine et la plus vraie et plus biblique, bien sûr, qui soit, parce que l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Il n'y a pas de péché dans la sexualité. Il n'y a pas de péché. Regardez quand même ce texte. Je ne sais pas si on aura le temps de l'expliquer en entier, mais c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Les Corinthiens, justement, avaient écrit à l'apôtre Paul et lui avaient posé des questions sur ce sujet. C'est pour vous dire que Dieu a voulu que dans sa parole, il y ait un enseignement sur cet aspect-là. Il s'est écrit. C'est quand même quelque chose de profondément sérieux. Il y a des instructions. Regardez. 1 Corinthiens, c'est dans ce texte où il parle justement qu'on peut s'épanouir dans le célibat. Mais il y a un enseignement. On va le lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire. Je veux le faire vraiment intelligemment et sainement pour ne pas déraper et pour rester dans le cadre de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Amen. Vous voyez que Dieu en parle d'une manière assez claire. Bon, il faut bien sûr l'expliquer. Regardez, au verset 28, l'apôtre Paul, justement, envisage les temps difficiles par lesquels passait l'église de Corinthe, mais ça fait allusion aussi à la fin des temps. Regardez, 1 Corinthiens 7, 28. Si tu t'es marié, si tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Donc ça fait allusion au temps de la fin dans lequel nous vivons. Il parle des tribulations, il parle que le temps est court, et que l'apôtre Paul s'inquiétait justement par rapport au temps de la fin et aux tribulations dans lesquelles les personnes peuvent se trouver. Mais le texte est formel. Un homme doit apprendre à savoir comment il doit se comporter envers sa femme. Et une femme doit apprendre à savoir comment elle doit se comporter avec son mari. Que le mari donne à sa femme de la considération. Vous savez, le respect, on en reparlera dans plusieurs études. Mais moi, c'est quelque chose auquel je tiens, parce que quand on respecte quelqu'un, on a de la considération pour lui. Mais le mari doit donner à sa femme de la considération qu'il y ait dit, et bien sûr, la femme doit faire pareil. Vous avez vu ce qui est dit? Il y a, quand il est parlé que la femme, son corps ne lui appartient pas, le corps du mari ne lui appartient pas non plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un sujet délicat, non? Moi, je me suis interrogé s'il fallait que je parle dessus. Très sincèrement, vous me connaissez, ça fait 10 ans. Donc, si je dis une erreur, vous me reprendrez. Mais il y a des moments où la femme peut éprouver un besoin. Elle peut réclamer de l'amour de la part de son mari. Et ce texte nous enseigne que le mari doit lui donner ce qu'elle attend. Et vice-versa, à d'autres moments, c'est le mari qui peut rechercher cet amour physique de la part de sa femme et avoir cette relation physique et que l'épouse doit se soumettre à son mari. C'est ce que je lis. Bien sûr, l'idéal, ça serait que le mari et la femme ressentent ce désir physique en même temps. Ça serait l'idéal. Mais, ça ne doit pas être toujours le cas, c'est quand même un problème, c'est quand même écrit dans la Bible. Alors moi, je veux pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que je sais combien on a vite fait de déraper. Ce texte nous montre que ça peut être un problème suffisamment grave dans le couple pour que Satan s'en mêle. Vous êtes d'accord avec moi? et que c'est quelque chose sur laquelle autant l'homme que la femme doit veiller. Et qu'on a intérêt à faire très attention, à ne pas refuser. Alors c'est vrai qu'avec ma femme, on a souvent discuté de ces situations où on a entendu quelqu'un qui a dit « Mais moi, vous savez, ma femme, elle ne voulait plus avoir de relation avec moi, alors je l'ai trompée. » Alors, je pense que ça, c'est grave d'en arriver là. Parce que il me semble que dans un couple, autant l'épouse que l'époux a le droit à être fatigué suite à des maladies, suite à des problèmes. Il me semble que quand même, c'est pour ça que je vous ai parlé du respect. C'est vrai quand même que le respect doit être fort dans le couple. S'il y a un conflit au niveau de la vie sexuelle, il risque d'avoir un conflit au niveau spirituel aussi. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment délicat. Mais que ce texte, pour moi, je sais que ça pourrait être l'objet d'un débat, c'est délicat, je vous assure. Moi, cet après-midi, je me suis dit, tu commences ce sujet ou tu ne le commences pas? Mettez-vous à ma place. Mais je pense quand même que c'est important d'en parler. Et qu'il faut faire très attention, autant du côté de l'épouse, autant du côté de mari, de ne pas se refuser l'un l'autre, mes frères et sœurs. Mais qu'il ne faut pas se soumettre non plus à contre-cœur. C'est vrai que moi, je suis en train, je me suis dit, mais attends, si tu pars dans ce sujet, tu vas pouvoir peut-être aller dans d'autres niveaux de la vie du couple. Quand Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, c'est quand même dans la parole de Dieu, ça. Ça ne serait pas écrit dans la Bible, on dirait, bon, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est quand même écrit dans la parole de Dieu. Et qu'il ne faut pas refuser à l'autre la joie qu'il peut éprouver de l'union physique. C'est quand même sérieux cette affaire. Moi, je me suis dit, mais comment tu vas tourner cette phrase le mieux possible? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Je crois, mes frères et sœurs, que dans un foyer, il faut veiller sur les besoins de l'autre. Vous comprenez? C'est quelque chose d'assez important pour que je puisse en parler. Mais pour être équilibré, Paul indique aussi qu'on peut très bien s'abstenir. Pourquoi? Ben pour jeûner, pour prier. Vous avez vu comment il bascule, après il dit, mais ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Moi je trouve que quand même c'est inspiré tout ça, chaque mot est inspiré par Dieu, et vous avez vu comment il juxtapose la vie du couple, la vie sexuelle du couple, avec la prière. Et quand l'apôtre Pierre dit, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, femmes, soumettez-vous à vos maris, etc. Il y a cette, pas esclave, mais cette soumission d'aide, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Il faut savoir s'accorder pour cette vie intime, et il faut savoir également s'accorder pour la prière ensemble, afin de vaquer à la prière, mais ce texte nous dit bien qu'un homme ne devrait pas être séparé longtemps de sa femme, qu'une femme ne doit pas être séparée longtemps de son mari, de peur que Satan ne vous tente. C'est quand même écrit. Vous savez, c'est quand même dangereux, il faut faire attention. Ne faites jamais entrer votre mari, ou ne faites jamais entrer votre femme dans la tentation. C'est vrai que ce n'est pas une excuse valable. Moi, j'y ai réfléchi des années. Je ne suis pas d'accord quand un homme me dit, moi, je l'ai trompé à cause de ci. Je crois quand même que quand on aime, je pense qu'on s'est patienté. Mais mes frères et sœurs, que de mariages ont été brisés parce qu'on n'a pas respecté 1 Corinthiens, chapitre 7. Et c'est quand même dommage. Je ne pensais pas partager ça ce soir, mais comme on était sur... pour expliquer qu'il n'y a pas de péché dans la sexualité, ça m'est venu sur mon cœur tout à l'heure, on va continuer avec les fiançailles. Quelques mots sur les fiançailles. On trouve ce mot dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, puisqu'il nous est dit que Marie était la fiancée de Joseph. Qu'est-ce que les fiançailles? Alors j'ai cherché dans le dictionnaire, promesse mutuelle de mariage. C'est une promesse. Le fait que l'on se promette de s'épouser un jour ne nous autorise pas à faire n'importe quoi de suite après. Vous comprenez? Les fiançailles, la période de fiançailles doit être vécue dans la pureté. La robe blanche aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Sérieusement, c'est une question que je nous pose. Qu'est-ce que ça signifie la robe blanche? Hein? Bon, aujourd'hui, je pense que ça signifie... C'est la tradition, hein? C'est la tradition. Bon, mais c'est bien la tradition. Je pense que toutes les petites filles du monde ont rêvé de ce jour où elles porteraient une robe blanche. Non, les jeunes filles, Isabelle, non? Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais sérieusement, bon, c'est tout à fait normal. Mais la pureté n'est pas dans la robe, bien entendu, vous le comprenez. Mais la sagesse de Dieu veut que ces fréquentations qui arrivent aux fiançailles soient conservées dans la pureté. Vous savez, il y a des gens qui, à cause d'avoir accéléré les choses, ont causé beaucoup de blessures. Et les blessures, ça existe. Parce que vous savez, rompre des fiançailles, c'est pas une grosse affaire, rompre des fiançailles. C'est pas une grosse affaire. Mais voilà. Comme dit Mme Régnier, il vaut mieux avant qu'après. On s'est engagé, le temps passe, mais s'il n'y a rien eu, s'il n'y a rien eu au niveau physique, eh bien, c'est pas difficile de rompre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le flirt. Le flirt, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du flirt. Franchement. C'est pas mal, hein. Comptez fleurette. Ouais. Faire la cour. Mais le flirt, ça peut laisser des conséquences. Et comme ce garçon qui disait un jour, mais moi, vous savez, moi, je suis fiancé, on n'est pas marié, on ne sait pas si on va se marier, on couche ensemble, mais vous savez, on se protège. Mais non, mais vous savez que c'est vrai, je vous apprends rien. On utilise un préservatif. Mais le préservatif, il vous préservera peut-être d'une grossesse, mais il ne vous préservera pas du péché. Il ne vous préservera pas de la culpabilité et il ne vous préservera pas des blessures infligées à l'autre parce qu'on aura précipité les étapes. Et je crois que ce n'est pas sérieux de chercher des prétextes à justifier le péché. C'est pour ça que le flirt en soi, mais les gens ils s'amusent, on flirte, c'est mon dernier flirt. Mais les jeunes filles, elles le prennent au sérieux, cette affaire-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On lui laisse croire à la jeune fille ou au jeune homme que ça va être sérieux. C'est pour ça qu'il faut faire attention, le flirt laisse aussi des conséquences, même s'il n'y a rien au niveau physique, il faut faire attention. On ne fait pas souffrir les gens, on ne joue pas avec les sentiments des autres. Il faut réfléchir, il ne faut pas se précipiter avant de prendre certaines décisions. Et il ne faut surtout pas fiancer les gens. Vous le savez ça? C'est pas parce que deux jeunes se parlent dans l'église, ça y est, t'as vu. Tu as vu? Ça fait trois fois qu'ils parlent ensemble. J'y reviendrai là-dessus. C'est trop sérieux pour que je le laisse passer. Mais si deux jeunes... Moi, je suis pas, ça ne me gêne pas quand deux jeunes parlent ensemble dans l'église. Moi, je préfère qu'ils parlent ensemble là, dans l'église, qu'ils soient tout seuls dans un coin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas vous. Moi, j'ai des enfants, vous voyez? J'en ai encore à marier. Mais je préfère les voir dans l'église, parler avec des jeunes filles, que d'apprendre qu'ils pourraient être cachés parce que on les fiance. Des gens, on les voit trois fois ensemble, ça y est, ils sont mariés. Et on peut exercer une pression sur les gens, ça j'en reparlerai parce que c'est un sujet aussi sérieux, la pression de l'église sur deux jeunes, c'est pas parce que deux jeunes se tiennent par la main, ça y est, qu'ils sont mariés. Laissons-les dialoguer. Laissons-les. Mes frères et sœurs, je pense qu'il faut dialoguer pour connaître quelqu'un. Et des fois, on a mis la pression sur deux jeunes, on les a presque poussés à se marier, parce qu'ils avaient la pression de l'Église. Et je crois qu'il faut faire attention. Et peut-être que je vais un peu loin, mais c'est quand même un petit peu vrai. N'évitons pas, ne poussons pas les jeunes à s'isoler, parce qu'ils risquent de se trouver dans la tentation. Un mariage, c'est sérieux, je vais terminer. Un mariage, c'est une prise en charge. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une prise en charge spirituelle, on le voit. L'homme, quand il dit que c'est le chef, c'est pas le patron qui commande la femme de ménage. Le chef, c'est l'homme qui veille sur son épouse, qui l'aide à faire le ménage. Amen. Isabelle, pourquoi tu lèves les bras? Non, je l'aide des fois, si. Mais je pense qu'il y a une prise en charge spirituelle, affective et économique. Les jeunes filles, écoutez-moi bien. Ne vous amourachez pas d'un feignant. Je vous le dis, écoutez, je vous le dis franchement, ne vous amourachez pas d'un paresseur. Les frères anciens, j'ai raison ou pas raison? Lisez dans la Bible les textes sur les paresseux et vous allez voir si vous avez envie d'en épouser un, croyez-moi. Donc, il y a un des devoirs, je pourrais terminer en lisant 1 Corinthiens 13, hein, vous connaissez ce fameux chapitre où nous voyons que tout est dans l'amour, tout est dans l'amour. L'amour précède le mariage, mais l'amour se développe après le mariage. L'amour, dans l'amour, il y a la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on ne réfléchit pas. Dans l'amour, il y a de la place pour la réflexion. Dans l'amour, il y a de la place pour la prière. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 5. Vous le lirez en Corinthiens 13, vous le connaissez, mais on voit bien que dans l'amour, il y a toutes ces vertus capables de mener la bénédiction sur un mariage. Regardez avec moi Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5. Verset 18. Regardez s'il est beau ce verset. Proverbe 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. C'est pas beau ça? C'est une parole du Seigneur pour nous encourager, à nous les hommes, à être toujours romantiques avec nos épouses. Ce n'est pas parce que les années passent qu'on ne doit pas rester romantique. Proverbe 15, où il y en a des textes sur les couples dans les proverbes. Il y a de tout, de toute façon. Il y a tout ce qui est romantique et puis il y a des trucs quand même intéressants. Regardez, Proverbe 15, verset 17. Là, on change de niveau, vous voyez. Voilà, mais c'est quand même, c'est ça. Le Proverbe 15, verset 17, « Mieux vaut de l'herbe, on me répète de la salade quand même, pour nourriture là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Il faut lire les proverbes pour voir combien Dieu met l'accent sur l'amour. Proverbe 15, 17. C'est vrai, béni soit Dieu pour les biens matériels. C'est vrai que si on peut avoir les deux, c'est merveilleux. Mais quand même, là où règne l'amour, quelle bénédiction, mes frères. Et ça se recherche, l'amour, ça se développe avant le mariage. On en reparlera. L'amour, ça se développe après le mariage. L'amour, c'est plus important que tout. On le lit dans 1 Corinthiens 13, on ne le lit pas parce que l'heure a tourné, mais c'est plus important que la carrière professionnelle. Les jeunes, que Dieu vous bénisse dans votre vie professionnelle. J'espère que vous réussirez, que vous aurez un bon métier. Mais l'amour, c'est plus important que le salaire. Tant mieux, moi je vous souhaite d'avoir un très très bon salaire. Mais c'est quoi le plus important? C'est un double salaire ou c'est un foyer béni doublement? Hein? L'amour, c'est plus important que la promotion sociale. Vous savez, il y a des jeunes, dès qu'ils sont mariés, le plus important, c'est la promotion professionnelle. Moi je vous dis, ne vous faites pas piéger. Le plus important, c'est l'amour. Mais ça ne nous autorise, pas à négliger le reste. On peut bien travailler, bien s'occuper de ses affaires, bien gérer son argent, bien être économe. Vous savez, il y a une grande différence entre être économe et être avare. Je crois qu'un homme qui aime sa femme, il est économe, il pourvoit aux besoins de sa femme, etc., etc. Vous savez, il doit y avoir ces choses au niveau professionnel, au niveau promotion sociale, etc., mais jamais, jamais sacrifier son mariage au détriment de ces choses. Hein? Encore un dernier texte dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, j'ai des versets que j'avais mis comme ça sur mes papiers pour vous montrer que, eh bien, que ce que Dieu est d'accord avec le foyer, la vie du couple, le bonheur familial. Là, c'était ce soir, on a vu un petit peu quand même la vie de couple, mais surtout les bases, les fiançailles, du mariage qui est en accord avec la loi du pays. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans ta vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Vous voyez, Dieu parle du travail, et Dieu parle de la bénédiction qu'il doit y avoir sur le foyer. Et je suis conscient, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la vie du couple, la vie sexuelle, était liée à la prière, vraiment, que rien ne devait se découper en rondelles, mais que tout était lié ensemble. Là, nous voyons que la bénédiction et la jouissance d'un foyer dépend également du travail que nous faisons. Nous devons nous appliquer à l'ensemble, mes frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui veut nous bénir. Nous sommes dans des temps difficiles. Les doctrines de démons, il y en aura de plus en plus. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Mais il y aura des églises où on continuera à garder la saine doctrine. Et que Dieu fasse que nous restions fidèles à la saine doctrine. C'est vrai qu'il y a des sujets, comme celui que j'ai abordé tout à l'heure, c'est quand même délicat, mais je pense que j'aurais été là depuis 2 mois, je n'aurais pas osé le faire, mais vous me connaissez suffisamment maintenant pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai voulu vous dire, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car je crois vraiment de tout mon cœur qu'il faut être sérieux avec ces choses. Que le mariage soit honoré de tous. On va se recueillir et demander au Seigneur que ces enseignements qui vont bien sûr circuler partout, même dans les pays francophones, puissent faire du bien. Dans toutes ces églises où on méprise le mariage, où on honore le concubinage, où on honore l'homosexualité aujourd'hui, où l'homosexualité c'est presque être BCBG dans le monde. Et moi je vous dis que ce sont des choses infâmes. On l'a lu tout à l'heure dans les Romains et je peux vous dire que Dieu n'a pas changé d'avis. Alors que Dieu nous aide à aider ceux qui traversent ces épreuves, ce péché, que Dieu nous aide d'accueillir les homosexuels, que Dieu nous aide d'accueillir tous les gens qui sont brisés dans la vie. Mais mes frères et sœurs, ne rabaissons jamais le niveau de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel notre Père, nous croyons que tu nous as laissé dans ta parole tout ce qu'il faut pour faire de nous des chrétiens, des maris, des foyers équilibrés. Nous croyons que l'Église est belle lorsqu'elle est composée de foyers équilibrés, de familles bénies. Nous te bénissons de nous entretenir, Seigneur, sur tous ces sujets délicats peut-être, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est être prêts jusqu'à la fin. Dans les couples. Et je te prie, Seigneur, avec tous mes frères qui sont ici mariés, avec tous les anciens, leurs épouses, nous te prions pour tous ces jeunes qui sont au milieu de nous. Je sais le fardeau de mes bien-aimés, Seigneur, et nous te prions pour que ta bénédiction soit sur tous ces jeunes. Tu les connais, donne-leur des conjoints selon ton cœur, donne-leur des foyers bénis. Seigneur, que cette faveur que tu vas accorder, eh bien, soit leur partage. Oui, Seigneur, nous te réclamons que ta parole puisse courir avec vitesse au travers des enregistrements, au travers du site internet. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole puisse bénir nos foyers. Tu vois nos enfants, tu vois nos ados, tu vois les petits de l'Église. Nous te les apportons tous, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, si tu tardes à venir, leur donner une belle église, avec des bonnes familles, des qui jouissent de la vie, qui sont là malgré les ténèbres, malgré l'oppression, qui sont dans ton refuge. Oui, Seigneur, nous croyons que tu t'intéresses à notre bonheur, et je, avec mes frères et sœurs, je veux bénir tous les ados de l'église, tous les enfants, tous les bébés, tous ces jeunes qui sont là, donne-leur cette grâce, et je te prie aussi pour les célibataires, ceux qui souffrent du célibat, Seigneur, qu'ils puissent s'épanouir et être une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, tu connais ce que tu veux bénir également dans ce domaine, eh bien nous te les apportons. Seigneur, aide-moi dans la suite de cette étude afin que cela contribue à ce que nos foyers soient de plus en plus spirituels. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.